Donc le psaume 119, je lis à partir du verset 129, et comme vous voyez, nous allons laisser l'évangile de Marc pour une semaine. Pour méditer sur une partie de ce psaume vraiment magnifique, qui est le psaume 119. Avant de commencer, je vous dirai juste ceci. Si vous ne connaissez pas bien le psaume 19, vous devez à tout prix, au fil des années, faire de ce psaume vraiment un endroit où vous revenez souvent. Il est remarquable. Il est remarquable dans sa structure. C'est un psaume acrostique. Donc, il y a une section de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versets pour chaque lettre de l'alphabet hébreu. Et dans chaque section de 8 versets, chaque ligne commence par cette lettre de l'alphabet, la même lettre. Comment est-ce qu'il a pu écrire ça? En trouvant les bons mots pour dire quelque chose de profond et de logique, en respectant l'acrostique et ainsi de suite, c'est un miracle. Mais vous allez voir en étudiant de plus en plus le psaume 119 que donc chaque section de 8 versets a un thème. Ce n'est pas écrit au hasard comme cela. Il y a un thème dominant pour 8 versets qui est souvent annoncé dans la première phrase ou le premier verset. Tout comme pour un chant, lorsque la personne joue la première corde ou note, vous voyez dans quelle clé le chant va être. À partir du premier verset d'une section de 8, vous voyez qu'est-ce qui le préoccupe là. D'accord? Et vous allez voir que quand je vous lance le défi de lire tout le psaume et de regarder pour voir si le premier verset ne vous annonce pas quelque chose qui est plus présent dans cette section que dans d'autres sections et qui traverse un peu. Parfois, c'est un peu difficile si on ne rentre pas complètement dans sa pensée, mais vous allez voir. D'accord? Bien. Nous avons le privilège dans le psaume 119 de nous rapprocher d'un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, de quelqu'un de très proche de Dieu, et de comprendre comment lui, il vit dans tous les aspects de sa vie, dans tous ses sentiments, dans tous ses problèmes, comment il vit ça et traverse ça avec Dieu et avec sa parole. Il faut dire aussi que dans ce chapitre du psaume 119, qui a 176 versets, c'est le chapitre le plus long de la Bible, il n'y a que deux versets qui ne contiennent pas un mot pour la parole de Dieu, que ce soit précepte, loi, prescription. Il utilise les synonymes et dans chaque verset, chaque verset de ce psaume, 176 versets, presque chaque verset contient le mot « ta parole » ou « ta loi » ou « tes préceptes », etc. Donc, ça nous montre que nous devons apprendre à vivre avec Dieu, avec et dans sa parole. Nous sommes un peuple guidé par la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes comme ça? Eh bien, nous allons partir et nous allons prendre ce psaume simplement verset à verset et nous commençons avec le premier point que je vous annonce après avoir lu les 8 versets. Donc 129, le verset 129. Tes préceptes sont merveilleux. C'est pourquoi mon âme les garde. La révélation, ou mieux le dévoilement de tes paroles, éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta promesse ou dans ta parole, et ne laisse aucune injustice dominer sur moi. Libère-moi de l'oppression des âmes, afin que j'observe tes statuts. Fais briller ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. Qui est cette âme qui peut parler comme cela? Il est quelqu'un comme vous. Et vous devez lui ressembler à l'égard de ce qu'il dit ici. Bien, on va regarder juste la structure rapidement. Vous voyez que dans un premier temps, dans les deux premiers versets, il parle de la parole de Dieu. Tes préceptes sont merveilleux, la révélation de tes paroles est claire. Après cela, il va parler de lui-même et son attitude envers cette parole. Dans le troisième verset, il dit « J'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. » Donc, il parle à Dieu au sujet de lui et sa relation avec la parole. Après cela, il commence à prier. D'abord, il parle de la parole. Deuxièmement, il parle de lui-même. Et troisièmement, il parle à Dieu. OK? Et donc là, « Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. » Après, « Affermis mes pas dans ta promesse. » Libère-moi, ce sont tous des requêtes, fais briller ta face sur ton serviteur. Et à la fin, il dit quelque chose au sujet de son... Il regarde le monde à l'extérieur. Il cesse de penser à lui-même et Dieu, sa petite relation avec Dieu, et il pense aux autres en dehors de lui. Et il dit, mes yeux répandent des torrents d'eau parce que les gens n'observent pas ta loi. C'est absolument magnifique. Sa manière de faire avec Dieu et ce qu'il vit avec Dieu quand il prie cette prière. Nous allons essayer de comprendre. Premier point. Tu seras motivé pour garder, pour obéir aux préceptes de Dieu dans la mesure où tu les vois non seulement comme ce qui est requis, mais comme ce qui est exquis. Tu vas garder les commandements de Dieu et ses voies dans la mesure où tu vois ces commandements comme des choses non pas simplement requis, mais exquis. Regardez bien comment il est dit. Tes préceptes sont merveilleux, c'est pourquoi mon âme les garde. Alors voilà une personne qui n'aime pas beaucoup les épinards, et qui les mange parce que c'est requis. Maman le dit. Mange tes épinards. Mais laissé à lui-même, cette personne ne va jamais aller chercher des épinards dans le placard, n'est-ce pas? Cette personne va manger le minimum possible d'épinards, n'est-ce pas? Parce que pour lui, les épinards sont seulement requis, mais ils ne sont pas exquis. La clé de la vie chrétienne se trouve en ceci, que nous allons obéir aux commandements de Dieu en nous habituant à les comprendre, à les voir et les percevoir comme des merveilles. Tes préceptes sont des merveilles et c'est pour ça que mon âme les garde. Nous avons un immense problème dans la vie chrétienne qui colle à notre peau à tout moment, c'est que nous sommes des légalistes par nature. Pas simplement en voulant gagner notre salut par notre mérite. Le Seigneur a fait un coup mortel à cela lors de notre conversion. On comprend bien, on ne gagne pas le salut par notre mérite. Mais nous sommes légalistes aussi dans le sens de regarder ce que Dieu nous commande de faire comme des simples règles. Et notre positionnement est « je veux bien faire », n'est-ce pas? On regarde les commandements, soyez un homme de prière, soyez une femme de prière, ou soyez pur dans vos pensées. Et on dit « ah oui, d'accord, je veux y arriver ». Et derrière ça, il y a l'égoïsme. Ma manière de considérer la loi de Dieu se reporte à moi-même. Ah oui, je veux être à la hauteur. Mon souci, c'est moi. Malheureusement, une conscience très aiguë est parfois une conscience empreinte d'égoïsme. Ah oui, je ne veux pas désobéir parce que je ne veux pas, moi, être quelqu'un qui a été fautif. La conscience qui regarde les choses comme des règles, qui veut bien faire, est une conscience malade. Et le problème, chers amis, c'est que lorsque je regarde les règles, priez, soyez purs dans vos pensées, comme des règles concernant lesquelles la chose importante, c'est que c'est si moi j'arrive ou non, je vais jamais voir la règle dans sa nature merveilleuse, parce que je suis tellement en train de me regarder, est-ce que j'arrive bien, que je vois pas que ben, c'est une merveille ce que Dieu me demande de faire là. Et c'est ça qui m'aurait amené à le faire, de voir en elle-même pourquoi les prescriptions de Dieu sont absolument formidables. Et si nous pensons à cela, nous pouvons lire par exemple dans Deutéronome un passage parallèle à ce que nous avons lu au début du culte. Et donc regardez avec moi rapidement. Ce passage en Deutéronome chapitre 4, nous allons remonter et lire les versets 5 à 8. Regardez comment Moïse, inspiré par Dieu, parle au peuple. Donc je lis en Deutéronome chapitre 4 et donc ce sont les versets 5 à 8. Je vous laisse le temps de trouver. Ce n'est pas la peine que je lise si vous n'y êtes pas. Je regarde les feuilles. Alors là, ok, bon. Verset 5. Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez bien en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront: cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Donc, il dit, mais gardez bien ces commandements, parce que ces commandements sont tellement étonnants que même les nations vont regarder la loi d'Israël et dire, mais quel est le Dieu de cette nation pour donner à ce peuple une telle voie de vivre? Et je le pense comme ceci. Au sein de la Trinité divine, il y a une vie. Il y a une vie entre Père, Fils et Saint-Esprit. Une vie ineffable depuis toujours, qui fonctionne d'une certaine manière. On ne peut pas imaginer, au sein de la Trinité, cette relation. Et la loi de Dieu, c'est quoi? La Bible résume la loi de Dieu en disant que c'est quand Dieu dit, soyez comme moi. D'accord? Alors, ma manière de fonctionner, père avec fils, fils avec père, etc., je vous le donne en loi. Le monde d'amour que je vis entre la Trinité, je vous donne une loi qui vous impose ce monde d'amour. Et c'est pour ça que Jésus dit que le résumé des 10 commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tous les commandements de Dieu concernant la pureté de la pensée, la fidélité du comportement, c'est simplement le monde d'amour décliné en combien d'étapes? C'est absolument merveilleux. C'est étonnant. Et quand je regarde les 10 commandements, et comment ces 10 mots résument tous les aspects de ma vie, tous les aspects de ma vie. Ma relation conjugale, ne commettez pas d'adultère. Ma relation avec le temps, 6 jours de travail, un jour de repos. Ma relation avec le voisin, ne volez pas, ne mentez pas, pas de faux témoignages. Ma relation vis-à-vis de la vérité, la vie intérieure de mon cœur, ne convoitez dans ton cœur ce qui est à ton voisin, le contentement. Quelle loi commande aux gens de se reposer? La loi de Dieu nous donne 1 sur 10 des commandements, vous dit reposez-vous. Mais ça, c'est une merveille. Quel Dieu va commander à son peuple, je vous commande d'être heureux. Réjouissez-vous toujours. Soyez toujours content. Apprenez en moi d'être rempli. Mais quel Dieu donne des voix comme ça? Et lorsque nous considérons les préceptes de Dieu, et lorsque nous arrivons plus loin que juste le dehors, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais lorsque nous comprenons le sens de tout cela, c'est incroyable. Et lorsque Jésus a fini le sermon sur la montagne et a montré le sens profond, la Bible dit que les gens ne s'en revenaient pas de ce qu'il disait. Ils n'avaient jamais entendu une chose pareille. Si quelqu'un te tape sur une joue, tends-lui l'autre joue. C'est vrai, on peut vivre comme ça. Comment est-ce qu'on arrive à vivre comme ça? Quel principe, quel amour peut être derrière une prescription pareille? Quelle révolution dans la manière de vivre! Personne n'a jamais dit de vivre comme ça. Et donc, chers amis, j'insiste sur ce premier point parce que tout le reste, c'est juste une explication de ça. C'est que nous allons obéir aux commandements de Dieu dans la mesure où nous arrêtons de les voir tout simplement comme des règles et nous les voyons comme des merveilles. Tes préceptes sont merveilleux, c'est pour ça que mon âme les garde. Qu'est-ce que vous devez faire alors? En regardant cette voix de Dieu que vous n'arrivez pas à garder, hein, pensez bien à elle aujourd'hui. Ce commandement qui vous trouble ou cette attitude que vous devez avoir et que vous ne voulez pas avoir, vous n'avez pas encore vu combien ce serait merveilleux de l'avoir. Comme attitude, comme comportement. Et qu'est-ce qui est derrière qui est formidable? Vous serez tiré vers ce commandement, non pas comme des épinards, mais comme du bon chocolat suisse. Parce que c'est exquis. N'est-ce pas? Bien, si je fais comme ça pendant tout le psaume, on va être là pour l'après-midi. Donc, on va aller de l'avant. Le deuxième point, c'est que la clé de l'extérieur, je dis de l'extérieur parce que je vais vous donner, c'est une porte qui a besoin d'une clé de l'extérieur et une clé de l'intérieur pour qu'elle s'ouvre. D'accord? C'est bizarre, mais voilà cette porte. La clé de l'extérieur pour expérimenter que les préceptes de Dieu sont merveilleux pour toi, c'est que Dieu doit vous les dévoiler. Dans tout leur sens profond. Regardez le deuxième verset de notre passage, donc qui est le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Ce n'est pas exactement la révélation, parce que la révélation, c'est lorsque Dieu nous donne quelque chose pour la première fois et il nous le révèle. Ah, d'accord. Mais ici, le mot signifie lorsqu'il enlève. Et nous il dévoile ce qui est à l'intérieur. C'est un peu le sens. D'accord? Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé à ces deux disciples lorsqu'ils étaient sur la route d'Emmaüs? Et Jésus leur expliquait, il faisait une étude biblique sur tout l'Ancien Testament. En partant de Moïse et tous les prophètes, il leur a parlé de tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ils connaissaient cet Ancien Testament. Mais Jésus dévoilait le sens. Et quand Jésus est parti, ils ont dit, est-ce que nos cœurs ne brûlaient pas au-dedans de nous lorsqu'il nous a ouvert les yeux pour comprendre les Écritures? D'accord? Donc la clé pour vous, vous n'allez pas voir les voies de Dieu comme une des merveilles, à moins que Dieu lui-même, par son esprit, vous montre qu'est-ce qui est merveilleux dans le commandement de ne pas convoiter ce qui est votre prochain. Moi et Timon, on est en train de lire un livre ensemble. On a lu des pages sur ce commandement de ne pas convoiter et on voit que ça nous mène tout droit vers le contentement et vers la confiance en Dieu que ce qui me donne est complètement suffisant. Mais il faut que Dieu agisse dans ta vie et donc une des clés d'extérieur, c'est de comprendre que nous devons prier, ouvre mes yeux pour voir les merveilles de ta parole. Ça, c'est dans le même psaume, au début du psaume 19. Est-ce que tu pries comme ça? Est-ce que tu utilises la clé de l'extérieur? Lorsque tu dévoiles, donc tu rends sages les simples. Alors, je parlais avec quelqu'un dans la semaine au sujet de Jacques 1. Réjouissez-vous dans les épreuves. Et cette personne m'a dit qu'il ne pouvait pas vraiment parler de cela à son ami chrétien, qui dans une épreuve, qui ne pouvait pas vraiment, parce que là, c'était un commandement trop haut. Cette personne ne va jamais arriver à accepter que je lui dis, tu dois lui en parler, parce que réjouissez-vous dans les épreuves, considérez les épreuves comme une joie, ce n'est pas un commandement pour les élites. Ça, c'est le commandement pour tous les chrétiens dès le jardin d'enfants. Regardez ce verset. Il dit dans le verset 130, la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Ce n'est pas pour une élite. Les profondeurs de la parole de Dieu. Lorsque Dieu œuvre en nous, même les simples reçoivent de l'intelligence. Pas besoin d'être érudit, mais seulement de demander. Montre-moi ce qui est merveilleux dans ta parole. Comme ça, je vais l'obéir. Ça va? Ok. Nous allons plus loin. On va parler de la clé de l'intérieur. 131, j'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. Le troisième point, c'est que la clé de l'intérieur pour expérimenter que les préceptes de Dieu sont merveilleux, c'est de les poursuivre comme des hommes et des femmes assoiffés. Maintenant, vous pouvez comprendre, c'est logique, n'est-ce pas? Si la parole de Dieu est comme un trésor, ce trésor ne se dévoile pas à tout le monde. Si tu n'as pas soif, tu ne verras pas ce qui est vraiment dedans. Donc la clé de l'intérieur que tu dois ouvrir, si tu veux voir les merveilles de la parole de Dieu, c'est que tu as soif. Je soupire après tes paroles. Et Dieu dit, d'accord, c'est à des gens comme ça que j'ouvre. Et que je montre mes merveilles. Notre problème, n'est-ce pas, parfois vis-à-vis de la parole, c'est que on n'a pas de soif. On n'est pas assoiffé. Oui ou non? Ah, c'est moi seul? Ah bon? Oh là là, c'est grave. Mais vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Et nous pouvons nous demander. Qu'est-ce qui nous met en dissonance avec le psalmiste lorsqu'il dit « J'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements » Qu'est-ce qui fait que je n'ouvre pas par cette clé de l'intérieur, par cette expérience intérieure? J'ai soif, il faut que tu me montres les merveilles de ta parole. Eh bien, je pense que trop souvent, le problème est celui-ci, c'est que je n'ai pas soif pour cette boisson. Parce que j'ai déjà bu autre chose. J'ai bu une autre boisson. Mon cœur n'est pas assoiffé parce que je suis satisfait de manière malsaine par plein d'autres choses. Vous savez que vous avez un cœur qui peut être satisfait par plein de choses, mauvaises et bonnes. Et lorsque la partie de ton cœur qui doit être assoiffée pour Dieu, et ce monde d'amour, cette vie avec lui qu'on vit, lorsque cette partie de ton cœur a été étanchée, satisfaite par simplement des divertissements ou par des idoles, là, vous vous privez de votre arme la plus puissante. Vous avez besoin d'avoir soif dans votre cœur. Vous avez besoin de sentir que je ne suis pas satisfait avec le statu quo de ma vie. Parce que c'est cette soif-là qui doit te dire, Seigneur, il doit y avoir plus dans cette vie chrétienne. Il doit y avoir plus dans cette manière de te connaître, de te suivre. Alors, montre-moi parce que je ne suis pas satisfait avec le statu quo. N'est-ce pas? Donc, n'étanchez pas la soif dans votre vie avec n'importe quoi. C'est très mauvais. Et c'est dommage que les gens arrivent au moment de prier, de méditer la parole, et ils sont tellement remplis avec mille et une autres choses qu'ils n'ont soif de rien. Ah oui. Méditer la parole. Donc, n'oublie pas le verset 131. Maintenant, nous allons un peu plus loin. Après avoir parlé de la parole et de lui-même, il va maintenant prier. Et donc, notre quatrième point, c'est que pour expérimenter la merveille des préceptes de Dieu, nous devons prier pour l'aide de Dieu afin de les garder. Je dis bien afin de les garder parce que vous allez voir que la parole ne peut pas être merveilleuse pour toi si tu es en dehors et tu le regardes comme un sujet d'étude intellectuelle. Les préceptes de Dieu sont merveilleux quand on va dedans et on les vit, on dit waouh. Dehors, ça avait un aspect, mais dedans, c'est autre chose. D'accord? Ok, donc on y va. Dans un premier temps, il va prier une prière générale, ça c'est le verset 132, et puis il va décliner cette prière dans les versets d'après. Ok? Est-ce que tu pries pour que Dieu t'aide à comprendre par l'expérience que sa parole est merveilleuse, ses préceptes sont merveilleux? Est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries comme lui? On va voir. La première prière qu'il prononce, c'est dans le verset 132, et c'est une prière générale. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. C'est un sentiment merveilleux, je trouve. Dans un premier temps, il demande à Dieu de se tourner vers lui. Je dirais que cette prière est. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il va dire cela? Et c'est vous avez la bonne intuition si vous avez l'impression que c'est comme si Dieu s'est détourné de lui. C'est comme si Dieu est en train de faire quelque chose ici et lui il dit tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. C'est l'idée. Même si nous savons que Dieu n'est pas comme nous, il n'a pas le dos tourné. Mais la Bible dit que Dieu se détourne de nous à cause de notre péché, et même parfois quand il n'y a pas de péché particulier. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors je vous demande de confirmer ça pour moi. Est-ce que dans ton expérience, tu as eu des moments où il te semblait que Dieu n'était pas à l'œuvre dans ta vie? Mais bien sûr que oui. Et pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pour que toi aussi, tu aies besoin de dire, tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. Dieu est un Dieu qui veut que tu le cherches. Il veut que tu le cherches. Et tu auras souvent besoin de dire « Tourne-toi vers moi ». Et combien Dieu aime ces paroles. Toi-même, tu les aimes. Quand quelqu'un que tu aimes et qui parfois te néglige, dit, t'appelle, tourne-toi vers moi. Je veux ton attention. Je veux toi, je veux ta présence. Je veux ton aide. Et donc, nous voyons que nous sommes obligés. Et la Bible dit dans Hébreux 4 et le verset 16 que donc nous devons nous approcher du trône de la grâce donc pour trouver de la miséricorde et de la grâce au moment de nos détresses. D'accord? Et donc, vis-à-vis de cette histoire de trouver les préceptes de Dieu merveilleux, nous devons dire à Dieu souvent, tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. L'action gracieuse et imméritée de Dieu dans ma vie, le Dieu qui me bénit, je ne sais même pas, je sais pas pourquoi il a fait, c'est ça qui est le moteur de ma vie chrétienne. Ça a été un moment, c'est pas mal quand même. Merci Jonathan. Ouais. Voilà, ça va donc pour cette prière générale. Il y a juste à voir la dernière partie. Selon ta coutume envers ceux qui, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Alors ça, c'est incroyable. Il dit, tourne-toi vers moi et fais ma grâce parce que ça, c'est tes habitudes. Tu es cette sorte de Dieu qui a l'habitude avec tout ce que tu aimes, avec tout ce qui t'aime, tu as l'habitude de te tourner vers eux et de leur faire grâce. Et sois comme tu es toujours. Ça, je trouve incroyable. Donc, nous aussi, nous devons prier comme cela. Nous allons plus loin. Maintenant, il va décliner cette prière générale et il va donner quelques prières précises qui sont importants pour toi et moi, si jamais nous allons entrer dans la vie des préceptes de Dieu et les trouver merveilleux. Ok, première prière spécifique. Nous la lisons donc dans le verset 133. « Affermis mes pas dans ta promesse et ne laisse aucune injustice dominer sur moi. » Donc, la première prière spécifique, c'est une prière pour marcher stablement devant Dieu, libre de la domination de quelque péché que ce soit. Est-ce que tu pries comme ça parfois? Tu as soif de Dieu? Tu as soif, tu veux son secours? Mais qu'est-ce que tu veux exactement quand tu pries pour le secours de Dieu dans ta vie spirituelle? Qu'est-ce que tu lui demandes de précis? Et Dieu nous apprend aujourd'hui que nous devons demander que Dieu nous donne une marche stable avec lui. Littéralement, on pourrait dire, Dieu fixe mes pas, cloue mes pas dans ta parole. Rends mes pas stables dans les voies chrétiennes et spirituelles. Vous savez que nous avons parfois une vie un peu ballottée. Nous sommes, comment est-ce qu'on le dit, tout feu, toute flamme. Et ça dure un moment, mais c'est un feu de paille, n'est-ce pas? On prie, on lutte contre certains péchés, on poursuit les choses positives dans la vie chrétienne, on sert les autres masses. Et puis, deux mois après, on est complètement ailleurs, n'est-ce pas? Et on nous enseigne ici que nous devons prier qu'il ne il doit pas être comme ça, là, une vie chrétienne. Oui, nous péchons tous. Je ne parle pas de perfectionnisme, mais je parle de stabilité. Fixe, comment est-ce qu'il le dit? Affermis mes pas dans ta promesse et ne laisse aucune injustice dominer sur moi. Lorsque vous avez un péché dans votre vie qui vous domine, vous ne pouvez pas marcher stablement. Quel est le problème? Est-ce que c'est une amertume contre quelqu'un? Alors, quelqu'un est venu récemment me dire que elle ne pouvait pas prier parce que il y avait une colère en elle contre quelqu'un. Mais cette personne a fait cela rapidement. J'étais impressionné. Venir jusque chez moi pour me dire que j'ai besoin rapidement de. Il y a quelque chose qui me trouble. Mais parfois, nous laissons un péché dominer. Et c'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire non à ça. Et nous vivons là-dedans. Tous les jours, une convoitise, une mauvaise attitude, un mauvais comportement. Et là, c'est impossible que nous vivions les merveilles des préceptes de Dieu. D'accord? Donc, nous devons chercher une vie où, même si nous péchons, et même si tu as plus de problèmes avec certains péchés que d'autres, aucun péché ne domine ta vie de sorte que tu vis plus ou moins sous sa coupe tout le temps. Et tu ne peux pas lui dire non. Lorsqu'il vient frapper à la porte, tu es obligé de dire oui. Ça ne peut pas être pour toi. Et ça ne va pas être pour toi si tu fais comme le psalmiste. Parce que lui, pour que ce ne soit pas le cas, il est obligé de prier. Il a ces mots sous la bouche. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Est-ce que tu pries comme ça? Je ne prie pas comme ça. Tu n'es pas comme le psalmiste. Tu ne sauras pas comme lui les merveilles des préceptes de Dieu. Mais soyons comme lui, n'est-ce pas? L'authenticité, la réalité, signifie qu'on est conséquent, n'est-ce pas? Si tu es jardinier, c'est pas que un été tu t'occupes bien de tes plantes, ou bien un mois tu t'en occupes bien, et puis le mois après tu vas même pas regarder. Ça, c'est pas le jardinage. Tu n'es pas jardinier. Tu n'es pas attaché à la jardinerie. Ou un sportif. Tu joues de tennis. Tu joues un mois. Le mois d'après, tu n'as pas touché la balle. Non, quelqu'un qui est vraiment quelque chose, tennisman ou jardinier, par définition, lorsqu'il y a une réalité, que quelque chose est vrai de toi, il y a une conséquence. C'est quelque chose que je fais habituellement, n'est-ce pas? Oui ou non? Et nous pouvons comprendre pourquoi il dit fixe mes pas dans tes paroles, comme ça ce ne sera pas un jeu que je suis en train de faire, donc je le fais parfois et parfois non. Ça, c'est une prière qui est au cœur de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Bien, on va plus loin. Ensuite, il dit dans le verset 134 ceci: Libère-moi de l'oppression des âmes afin que j'observe tes statuts. Regardez. Dans la prière précédente, il parlait du problème intérieur, le péché qu'il domine lui. Maintenant, il parle du problème extérieur. Parfois, il y a d'autres personnes qui veulent m'empêcher d'obéir à Dieu, de connaître la merveille d'une vie chrétienne, n'est-ce pas? Et il est obligé de demander, comme vous, alors, libère-moi de l'oppression des hommes afin que j'observe tes statuts. Vous savez qu'il y a des gens dans ce monde qui n'arrivent pas à vivre pleinement une vie chrétienne à cause d'autres. Il y a des gens dans des pays où on ne leur permet pas de faire tout ce que Dieu voudrait qu'ils fassent. Et vous savez que 8 ou 9 fois dans le livre d'Exode, Dieu dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Parce que Israël, en Égypte, dans la captivité, ne pouvait pas vivre comme Israël en dehors d'Égypte. Et vous aussi, est-ce que vous avez, bon, heureusement, on n'est pas dans l'oppression, comme dans certains pays, mais est-ce que vous avez quelqu'un qui exerce, un non-chrétien qui exerce une influence sur vous, qui est manipulatrice, qui vous contrôle, qui vous empêche de vivre complètement comme vous le feriez normalement. Libère-moi de l'oppression des âmes pour que j'observe tes préceptes. Et parfois, c'est subtil, hein? Non, tu ne peux pas venir me voir, me parler de Dieu parce que dans ma famille, on ne parle pas de ça. Bien, viens, je dis, je pense qu'il n'y aura personne à la maison. N'est-ce pas? Ou bien, viens me parler, tant pis. Que les autres l'aiment ou pas, moi je voudrais te parler de ça. Il y a une grande différence entre ces deux comportements. Libère-moi de la pression des âmes. Ensuite, nous arrivons au verset 135. Fais briller ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. Alors, quand j'arrive là, il me semble que ça n'a... Qu'est-ce que ça ajoute? Comment est-ce que ça avance les choses? Il me semble revenir en arrière. Il avait dit « Tourne-toi vers moi et fais ma grâce ». Il me semble qu'il est en train de se répéter. Il dit « Fais briller ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions ». Sauf qu'il ajoute quelque chose qui n'est pas présent jusqu'ici. Il se nomme pour la première fois « ton serviteur ». Jusqu'ici, il dit « moi, 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 moi ». « Aide-moi, enseigne-moi ». Mais maintenant, il dit « fais briller ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions ». Je crois que sa prière monte d'un écran maintenant parce qu'il est en train d'utiliser un argument avec Dieu. Et cet argument, c'est ceci. Tout le monde sait que c'est au patron, c'est au maître d'enseigner au serviteur comment faire ce qu'il veut. Si on t'embauche, on doit te former, n'est-ce pas? Si je suis ton employé, tu dois me montrer comment tu veux que je fasse. Et donc, il est en train de plaider. Enseigne tes statuts à ton serviteur. Je suis ton serviteur. Si vous le vérifiez, remontez au verset 125. Regardez. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. C'est ça, n'est-ce pas? Rappelle-toi de qui je suis. T'es obligé, Seigneur. Je suis ton serviteur et je ne vois pas comment vivre cet aspect de ma vie chrétienne. Alors, il est en train de commencer à plaider maintenant. Fais briller ta face sur moi. Ça veut dire, souris envers moi. Montre-moi que tu es complètement pour moi. Mais en faisant cela, il dit, il faut que j'assume ma place. Je suis le serviteur de Dieu. Je suis à lui. Et là, il arrive au cœur de la vie chrétienne. Parce qu'obéir au précepte de Dieu, c'est vraiment dire, moi je suis à lui, je suis fait pour vivre et le servir comme il veut. Donc montre-moi comment faire, parce que ça c'est toute ma vie. En fait, à la fin, il pense aux autres. Parce qu'on ne peut pas vivre les merveilles de la parole de Dieu, des prescriptions de Dieu, en pensant seulement avec toi et ta relation avec Dieu, parce que les préceptes de Dieu te poussent toujours en dehors de toi-même. N'est-ce pas? Et te disent, regarde autour de toi. Donc, à la fin, il dit, mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. Et ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui n'exagérait pas, mais qui décrivait sa vie de croyant. Imaginez, qui était-il? Je me demande parfois, comment est-ce qu'il était cet homme? Quelle est la personne? Est-ce que tu connais des personnes qui peuvent dire aujourd'hui, je pleure des rivières d'eau parce que les gens en France ne gardent pas la parole de Dieu? Littéralement, je mouille mon lit, mon coussin. La place où je prie quand je suis à genoux, parce que les gens ne gardent pas ta parole. C'est vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Si vous voulez le lier, et là nous allons terminer. Au début, il disait qu'il gardait la parole de Dieu, lui, parce que, dites-moi, parce que, pourquoi est-ce qu'il gardait la parole de Dieu? Parce que c'est merveilleux. Maintenant, si à la fin il dit, Il y a des gens qui ne gardent pas ta parole, c'est que ces gens ne trouvent pas merveilleux Dieu. Ou maintenant vous comprenez pourquoi ils pleurent. Il y a tant de gens dans ce monde qui ne trouvent rien de merveilleux dans mon Sauveur, dans mon Dieu. Et oui, c'est affligeant pour nous, n'est-ce pas? Nous sommes tellement tristes parce qu'il est leur Dieu et leur Sauveur aussi. Il est venu vers eux. Il leur envoie cette parole. Ils ont entendu souvent de la part de chrétiens. Et donc ça aussi fait partie de notre souci dans la marche chrétienne. Nous ne voulons pas laisser les gens là où ils sont parce que la parole de Dieu et les voix de Dieu sont merveilleuses. Je vous dis que si ce n'était pas merveilleux, ça ne nous affligerait pas que les gens ne gardent pas. Il y a des gens en France qui sont en train de pleurer des rivières d'eau en ce moment même au sujet de Kiev. Cette ville en Ukraine qui est en train de subir des massacres, des choses terribles. C'est des Ukrainiens qui pleurent et pas les Français. Parce que eux, ils ont vu cette ville, ils ont connu cette ville. Ils ont connu que cette ville en Ukraine est une ville merveilleuse. Vraiment, c'est un endroit formidable. Et comme c'est formidable, ce qu'on est en train d'en faire maintenant, ça les fait couler des larmes. N'est-ce pas? Et plus vous voyez l'Évangile et les voix de Dieu comme des merveilles, plus vous coulerez des larmes lorsque les gens ne gardent pas la parole de Dieu, et plus vous prierez pour eux. Que le Seigneur nous aide donc à vivre les merveilles de sa parole. Nous allons chanter en réponse à Dieu le numéro 285. Dans l'orgueil 285. Après ce chant, nous passerons un moment dans la prière.